Merci pour toutes ces informations. Retour à l'AFP, au siège de l'AFP, place de la Bourse à Paris, pour notre voyage au cœur de 7 jours d'événements.
Une semaine d'actualité.
Nous sommes en compagnie de Xavier Baron, ancien journaliste à l'agence, auteur d'une histoire de l'AFP et de l'agence Havas qui l'a précédé, livre publié aux éditions La Découverte, Sophia Bouderbala, adjointe à la rédaction en chef Europe-Afrique, et Hervé Rouach, adjoint au rédacteur en chef central. Dans un instant, nous partirons bien sûr pour l'Afrique. Mais reparlons d'abord de l'agence, non sans vous avoir rappelé qu'en France, Manuel Valls a obtenu la confiance de l'Assemblée nationale par 269 voix pour, 244 contre, 37 députés de moins par rapport au dernier vote de confiance. Notez que le gouvernement souhaite, dit-il, supprimer la première tranche de l'impôt sur le revenu dans la loi de finances pour 2015. Je rappelle aussi que François Hollande a répondu aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse et je souligne la grève très suivie des pilotes d'Air France ces derniers jours. Ils protestent contre la stratégie de développement de la filiale à bas coût Transavia. Je vous rappelle aussi la mise en examen de la SNCF jeudi pour homicide et blessures involontaires dans l'enquête sur la catastrophe ferroviaire de Brétigny. Cette mise en examen intervient un an et deux mois après le déraillement d'un train Paris-Limoges qui avait fait 7 morts le 12 juillet 2013. Et nous revoici donc à l'AFP, dans ce magnifique endroit, avec une vue sur la bourse, au milieu du desk, des ordinateurs, des écrans de télévision, bref, dans une salle de rédaction d'aujourd'hui. Il faut préciser, Xavier Baron, qu'il y a moins d'abonnés en France, abonnés à l'AFP, parce que je précise que l'AFP marche avec des abonnements de clients, des radios, de télévisions et d'institutions, moins en France qu'à l'étranger.
Oui, mais c'est un peu naturel, parce que dès le début, l'agence a une ambition mondiale, et le nombre de journaux à l'étranger est évidemment, si on les totalise, évidemment plus important, de journaux de télévision et de sites, plus important qu'en France. Mais c'est ce qui est plus nouveau ces dernières années, c'est que le chiffre d'affaires commercial de l'agence s'est développé beaucoup plus à l'étranger qu'en France, et en France il représente aujourd'hui moins qu'avant. Puis l'agence est une institution mondiale aussi par le fait qu'il y a 80 nationalités qui travaillent dans l'entreprise, et que ça a toujours été, enfin c'était la mondialisation avant même que l'idée n'existe.
Alors, il n'empêche que l'AFP traite évidemment l'actualité française, Hervé Rouach.
Oui, l'AFP a une double casquette. Elle est à la fois agence mondiale et l'agence nationale française. Enfin, la principale agence française. Donc, effectivement, elle est la référence en France et elle se veut aussi être une référence au niveau mondial. Donc, il y a des produits qui sont spécifiques aux clients français et des produits qui sont pour les clients étrangers, internationaux. Les produits français s'adressent principalement aux médias français, radio, télévision, vision, journaux, et donc il traite en profondeur de l'actualité française.
Alors politique, économique, sportive, je crois que le sport
sportive,
occupe une...
information sociale, voilà, justice, police, etc.
Il faut préciser aussi, là on approche de l'Afrique avec vous, Sophia Bouderbala, que l'agence parle aussi beaucoup, et ça nous tient à cœur, parle aussi beaucoup de l'actualité africaine.
Oui, bien sûr, mais on essaye d'en parler le plus possible et de... C'est toujours un petit peu compliqué de gérer un réseau de correspondants et de soutenir nos correspondants locaux qui sont l'ossature de notre présence en Afrique.
Alors ils vous écoutent tous ce matin, j'en suis certain. Il faut préciser que vous avez des bureaux aussi en Afrique. Comment ça marche ?
On a 7 gros bureaux régionaux qui couvrent l'ensemble du continent et qui travaillent en général en deux langues principales, qui sont le français et l'anglais, et aussi dans les langues locales, puisque la plupart de nos correspondants sont des nationaux des pays où ils travaillent, et travaillent pour nous localement souvent depuis des années, et sont vraiment le ciment de notre couverture.
Dans des conditions parfois difficiles.
Dans des conditions parfois difficiles, parce qu'ils sont, par exemple, enfin, on reparlera sûrement d'Ebola plus tard, mais c'est un des sujets. Je veux dire, on a le choix de pouvoir y aller et repartir, eux non. D'autant plus dans des situations comme ça, où il y a des mesures extrêmement drastiques qui ont été prises par les différents États et les États voisins, avec des fermetures de frontières. Et on a aussi le cas en Centrafrique, où on essaie de faire sortir parfois du pays nos correspondants locaux pour qu'ils aient un bol d'air. Et quitte à ce qu'ils y reviennent, et c'est leur vie, c'est leur famille, c'est leur maison. Et des fois, c'est dans des conditions effectivement très difficiles.
Xavier Baron, ça vous rappelle quelques souvenirs, l'Afrique ? Vous avez été en poste en Centrafrique ?
Oui, j'ai commencé à l'étranger en République centrafricaine il y a longtemps. Et c'était à l'époque où Jean-Bel Bokassa était président. Absolument. Qui a fait parler de lui par la suite de différentes façons et en différentes circonstances.
Et qui vous a cru mort hein, à un moment ?
Oui, alors ça, c'est une petite histoire personnelle. Quand j'étais à Bangui, il m'avait mis en prison parce qu'il y avait une dépêche qui lui avait pas plu. Et ensuite, je suis parti en Vietnam, puis au Cambodge. Et au Cambodge, j'ai été pris par les Khmers Rouges. Et les premières informations, c'est que j'avais été tué. Donc lui, il rentrait d'un voyage au Tchad, je crois. Et quelqu'un lui avait dit, vous savez, Xavier Baron qui était là l'année dernière, il était tué au Cambodge. Donc en débarquant à Bangui Mpoko, à l'aéroport de Bangui Mpoko, comme d'habitude, il y avait toujours tout un dispositif imposant. Il y avait toutes les parties qui étaient là, toutes les dames du Mézan, le parti centrafricain. Il y avait les ambassadeurs, il y avait la population, il y avait enfin voilà. Et donc il aurait fait respecter une minute de silence à ma mémoire à Bangui.
C'est pas banal quand même.
C'est assez un pied de nez. Je trouve ça assez drôle, parce que d'abord le personnage est devenu empereur, commençait à avoir une minute de silence de la part d'un empereur, et puis ensuite lui a disparu, moi je suis encore là, donc...
Il y a une justice.
Voilà, enfin ça fait partie des anecdotes multiples et variées que tout correspondant de l'AFP connaît dans son existence.
Sept jours dans le monde.
Et nous allons partir pour l'Afrique avec vous aussi, Sophia Boudherbala, pour d'abord, évidemment, reparler d'Ebola, sa propagation en Afrique qui inquiète le monde désormais. Jeudi, par exemple, le Conseil de sécurité de l'ONU a pris position. Il a voté à l'unanimité une résolution qui appelle à la mobilisation internationale. Correspondance de Carrie Bleubourg.
En se saisissant de l'épidémie d'Ebola, le Conseil de sécurité indique que le virus est maintenant considéré comme une menace pour la sécurité internationale. La résolution proposée invite tous les États membres à fournir de l'aide d'urgence, hôpitaux de campagne, équipes médicales et demande de mettre fin à l'isolement du Liberia, de la Guinée et de la Sierra Leone. Il s'agit de sonner la mobilisation générale, dit Jean-Victor Nkolo, porte-parole aux Nations Unies.
On sent cette mobilisation de la communauté internationale qui se dit, et à juste titre, eh bien, si ça se passe au Libéria ou en Sierra Leone, ça peut aussi se passer chez nous. Parce que nous sommes dans un village global et que les gens voyagent rapidement, facilement et très loin. Il ne s'agit pas simplement cette fois-ci d'analyser, de parler. On parle de quelque chose qui tue Ebola. Et il faut faire très attention à ce que nous prenions du retard.
L'ONU estime déjà qu'il faut investir 1 milliard de dollars pour stopper l'épidémie d'Ebola.
De leur côté, les Américains ont réagi aussi. Barack Obama a annoncé mardi l'envoi de 3000 militaires en Afrique de l'Ouest. Céline Pellerin.
3000 militaires américains sont envoyés au Libéria pour lutter contre la propagation du virus Ebola. Plusieurs missions leur ont été attribuées. D'abord, construire au plus vite 17 centres d'accueil et de traitement dans le pays, chaque structure pouvant prendre en charge 100 patients. Le personnel médical militaire américain devra également former des soignants. L'OMS déclarait récemment manquer de personnel au Libéria. Washington répond donc à cette demande et a prévu de former 500 professionnels de santé par semaine, et ce durant une période de 6 mois. Outre le Pentagone, l'Agence américaine pour le développement international va également participer à ce plan d'aide en distribuant des kits de protection à 400 000 foyers libériens qui sont exposés à la maladie. L'autre volet du plan d'aide annoncé par Barack Obama concerne le financement des moyens de lutte contre le virus. L'administration Obama a déjà versé 100 millions de dollars et le président américain a fait une nouvelle demande au Congrès afin qu'il débloque une enveloppe supplémentaire de 88 millions de dollars. Plus de la moitié de cet argent doit servir à soutenir les recherches engagées pour découvrir un vaccin contre ce virus qui a contaminé près de 5000 personnes en Afrique de l'Ouest depuis le mois de mars.
Avant de revenir au siège de l'AFP, allons en Guinée maintenant avec notre envoyé spécial dans une région particulièrement touchée par le virus, la Guinée forestière, où la France va installer un hôpital. C'est François Hollande qui l'a annoncé jeudi. Reportage d'Olivier Roger, mercredi.
Chaque jour ou presque, Médecins sans frontières transporte de Macinta au centre de traitement de Gekedou les victimes d'Ebola. Sur la piste défoncée qui relie les deux villes, les véhicules bâchés qui servent d'ambulance attirent des regards méfiants. Beaucoup de villageois masquent leur nez et leur bouche au passage du convoi, comme si Ebola flottait dans le sillage des malades. Dans certains villages, ce sont des mines patibulaires qui accueillent les ambulances, tandis que dans d'autres, les enfants crient Ebola au passage des voitures. La peur et la psychose sont partout. Kwadjou, en Guinée forestière, épicentre de la maladie. Dans la région de Massinta, certains villages continuent de refuser l'accès aux humanitaires. Certes, on est loin de la situation d'avril dernier, où les habitants de Massinta avaient saccagé le centre MSF, mais la peur est toujours contagieuse. Depuis 15 jours, Massinta est de nouveau frappée, le flux de personnes contaminées a repris. Contrairement à Conakry, où la sensibilisation a nettement progressé, en Guinée forestière, on continue à acheminer trop tardivement les malades dans les hôpitaux. Dès lors, les taux de mortalité sont bien plus importants que ceux observés dans la capitale.
À souligner aussi une de nouvelles violences au Nigeria. Cette fois, une école de Kano a été attaquée par de présumés combattants de Boko Haram. On va y en venir dans un instant. Ensuite, d'une semaine d'actualité à l'AFP, au siège de l'AFP, Hervé Rouache, est intéressant de noter que l'ONU s'est mobilisée et que le Conseil de sécurité a considéré qu'Ebola était une menace contre la paix et la sécurité internationale.
Oui, c'est rarissime que le Conseil de sécurité s'exprime sur un problème de santé, une épidémie ou une pandémie. La dernière fois, c'était pour la pandémie de sida. Donc, on voit bien qu'il y a une prise de conscience mondiale. Bon, on l'a vu avec le reportage qu'on a entendu sur la Chine tout à l'heure, les États-Unis bien sûr, et puis la France aussi.
Sophia.
Oui, ce que je trouve assez remarquable aussi cette semaine, enfin, pour moi, elle s'est découpée. Il y a trois choses remarquables. Il y a effectivement ces déclarations de l'ONU qui arrivent quand même 8 mois après le début de cette épidémie. Donc, il y a quand même le temps. Oui, c'est exceptionnel, c'est bien, et tant mieux s'il y a cette mobilisation et cette prise de conscience, et sans doute ça va inciter un certain nombre d'États à faire un effort supplémentaire, mais c'est quand même extrêmement tardif, ça fait des mois.
C'est le temps des diplomates.
Oui, comme toujours, mais ça fait quand même des mois que les meilleurs spécialistes, et notamment MSF...
Oui. Ronnie Broman à ce micro, il y a 3 semaines, 15
ouais,
jours...
Exactement, et bien avant, depuis le mois de juin, ils ont... Bien avant la déclaration de l'OMS qui date du 8 août de déclaration d'alerte mondiale, les équipes sur place avaient vraiment tiré la sonnette d'alarme en disant qu'on était face à une situation qui était potentiellement totalement incontrôlable. Pourquoi ? Parce que le foyer principal, qui était en Guinée forestière, là où est votre correspondant Olivier Roger, a débordé très vite. À la fois du fait du peu d'informations dont disposait la population qui a continué à circuler et qui circule très naturellement de part et d'autre des frontières dans cette région, c'est-à-dire d'une part vers le Libéria, d'autre part vers la Sierra Leone. La deuxième chose que je trouvais intéressante, c'était cette annonce aussi très rare des Américains qui annoncent un renfort militaire, certes à des fins de génie civil plutôt, mais quand même un renfort militaire. Ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas vu ça sur le sol africain. Et c'est très intéressant aussi que ce soit au Libéria, il y a une histoire très particulière entre ce pays et les États-Unis. Enfin, c'est quand même des États, le Libéria et la Sierra Leone, qui avaient vocation à accueillir les esclaves affranchis et à être les États, les futurs États de la liberté, tissant un trait et peut-être effaçant en partie une ardoise de la traite atlantique à la victoire des nordistes. C'était enfin une espèce de boucle bouclée là. Et il y a un engagement vraiment particulier avec ce trait historique qui est tracé, qui est revendiqué par les Américains et par les Libériens sur ça. Et la troisième chose, c'est que ce qui m'a frappé, comme toujours, c'est à quel point le continent est démuni. Là, cette semaine, l'arme de la Sierra Leone, c'est de placer son pays dans un état de confinement général.
Et je rappelle l'information qu'on donnait hier, le confinement pour 6 millions d'habitants de la Sierra Leone.
Oui, ce qui semble...
Un pays entier invité à rester chez lui.
Oui. Donc il est effectivement invité, c'est-à-dire qu'on ne tirera pas à vue dans les rues sur les gens qui sortiraient, mais ça paraît invraisemblable, ça paraît incroyable, ça paraît inenvisageable. Il y a quelques 30 000 volontaires qui sont censés faire du porte-à-porte, sachant que même s'ils trouvaient des cas, de toute façon, on n'aurait pas les moyens de les hospitaliser. Enfin, tout ça, de toute façon, est extrêmement compliqué à gérer, et c'est le cas des deux pays les plus touchés aujourd'hui, qui sont la Sierra Leone et le Libéria.
Et je tiens à rendre hommage à MSF. Qui a été seul longtemps, qui l'est toujours en quelque sorte aujourd'hui.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Vous pouvez évidemment continuer à nous écrire. Cela nous fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi nous écrire à la page Une semaine d'actu de Facebook. Un salut à quelques-uns qui l'ont fait ces derniers jours. Bonjour par exemple à Amandine, à Abidjan, à Belinda et Samy à Kinshasa, à Mustapha à Douala et Mohamed Al-Mustapha à Bamako.
Une semaine d'actualité.
Et nous partons pour la Centrafrique. Une nouvelle force de l'ONU a pris lundi le commandement des opérations de maintien de la paix dans le pays, succédant à des forces internationales déjà déployées pour mettre définitivement, en principe, fin aux violences et stabiliser les institutions. Alors qu'à Bangui, la vie revient depuis plusieurs semaines. Écoutez ce reportage de nos envoyés spéciaux, Laurent Corot et Bertrand Éclair, mardi.
Après des mois de violence, la machette peut être un signe d'espoir quand elle est utilisée pour dégager les portes, rouvrir les allées, faire revivre des quartiers. Dans le 3e arrondissement de Bangui, l'un de ceux qui ont le plus subi de violence des groupes armés, l'association Tournons la Page mobilise des déplacés pour nettoyer les quartiers et aider au retour. Moussa Bardé est le président de l'association.
Ici, vraiment, l'herbe a trop poussé. On fait ce travail pour ouvrir la ruelle, pour permettre aux forces de sécurité de bien sillonner le quartier pour prendre la sécurité de la population.
Une machette peut même être un symbole de réconciliation quand chrétiens et musulmans travaillent ensemble à rendre le 3e arrondissement plus fréquentable. Mahamat est musulman, c'est l'un de ceux qui travaillent à couper les hautes herbes qui ont envahi le quartier.
Les chrétiens, en tant que tels et les musulmans, n'ont pas de problème entre eux. Nous partageons tout. Bon, nous travaillons avec Guy. Guy, viens.
Guy est chrétien, il répond à l'appel en riant et s'approche.
Chrétien et musulman, on est là, réunis. C'est une très bonne chose. On travaille pour permettre à ceux qui sont encore dans les sites de déplacés de rentrer chez eux.
Tous les problèmes sont évidemment loin d'être résolus. Le principal étant sans doute que l'arrondissement est un grand champ de ruines. La plupart des maisons ont été saccagées et pillées. Les tôles qui étaient sur les toits ont été emportées. Les candidats au retour réclament donc de l'aide pour repartir. Tire à zéro, notamment des tentes et de la nourriture.
Suite d'une semaine d'actualité, retour au siège de l'AFP avec vous, Sophia Bouderbala. C'est un pays que vous connaissez bien, la Centrafrique.
Oui, que je connais un peu. Je n'ai pas la prétention d'avoir l'expertise de nos multiples envoyés spéciaux qui s'y sont succédés là, depuis un an et demi et nos correspondants historiques qui y sont toujours. Mais j'y suis allée effectivement un petit peu et surtout, il ne s'est pas passé grand-chose finalement lundi dernier. On a changé d'uniforme. Ça fait déjà deux fois qu'on fait ça, avec les soldats qui sont sur place, qui sont passés d'un mandat d'Union africaine à un mandat moitié européen, à une présence française, qui maintenant passe sous chapeau onusien. On espère tous qu'on va arriver à quelque chose. En même temps, ce qui est très frappant depuis Bokassa, c'est que dans les reportages qu'on a pu faire sur place, c'est qu'il y a une désespérance profonde des gens qui voient pas du tout leur situation s'améliorer. Un pays qui est complètement déstructuré. Il y a eu effectivement des accords politiques fragiles qui ont été passés entre la rébellion à dominante musulmane Séléka et les tenants actuels du pouvoir qui est la formation d'un gouvernement de coalition, mais tout ça est très très fragile. Encore aujourd'hui à Bangui, il y a des heurts réguliers. Il reste un quartier musulman PK5 qui reste un quartier extrêmement difficile, très isolé, où la population a peur de sortir encore. Et puis il y a un no man's land dans à peu près tout le reste du pays, avec des zones entières dont on sait absolument pas qui les contrôle réellement, avec des groupes armée étrangère comme la LRA qui reste présent, donc l'armée de résistance du Seigneur ougandaise qui reste présente aux confins du pays, à la frontière soudanaise et congolaise. Et puis il y a même une petite nostalgie Bokassa même qu'on a pu constater. Mais c'est souvent le cas, c'est-à-dire que on voit pas le bout, donc on rêve, on a la nostalgie des jours meilleurs. Mais sincèrement, on ne sait pas encore bien où on va. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir 12 000 hommes sur place à terme. Là, on est à 7 000, 8 000 casques bleus, et qu'on espère qu'au minimum, il y aura une sécurité rétablie ou en tout cas raisonnable dans un certain nombre de zones, ce qui est un début. Voilà.
Xavier Baron, vous expliquez très bien dans votre livre Le Monde en direct, l'histoire de l'AFP et de l'agence Havas, que l'AFP a accompagné en quelque sorte les indépendances africaines, et ça s'est fait parfois dans la crise,
fait au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où l'agence est assez peu présente, d'ailleurs les autres agences aussi, et petit à petit avec les indépendances un certain nombre de bureaux se sont ouverts, alors avec une préférence au début en tous les cas pour l'Afrique occidentale, l'Afrique francophone, ce qui n'était pas surprenant. Mais quand même, assez rapidement, il y a eu la volonté aussi d'être présent dans l'Afrique anglophone. Ça a commencé par Madagascar, parce que c'était la base où une agence française pouvait le plus facilement s'établir, en tous les cas comme base de départ. Mais très rapidement, ça s'est dirigé vers les autres pays de l'Est de l'Afrique et l'Afrique du Sud.
Alors parlons du statut de l'AFP, qui est un vaste sujet, me disiez-vous, qui est un sujet d'éternel débat dans le monde de la presse, et notamment à l'AFP. C'est un statut assez spécial, il faut le souligner.
Le statut de l'agence tel qu'il est actuellement, c'est un statut qui date de 1957. C'est ce qu'on a appelé, nous, l'agence, le statut de la liberté, puisque de 44 à 57, l'AFP était un établissement public, où le budget était voté par le Parlement, où le président, qui s'appelait à l'époque le directeur général, était nommé en Conseil des ministres. Ainsi de... Tout ça s'est terminé en 1957. Et à ce moment-là, il y a un nouveau statut qui a accordé la liberté de fonctionnement, l'autonomie à l'agence. Cependant, ce qui demeure, c'est que si ce statut a accordé effectivement la liberté d'informer à l'agence, il n'a pas réglé son problème d'indépendance économique. Donc il était indépendant éditorialement, mais pas économiquement. Et on traîne ce problème depuis 1957. L'AFP est toujours à la recherche de moyens. Elle n'a pas assez de moyens pour se développer, ce qui lui a coûté cher parce que ses concurrents se développaient plus vite. On l'a vu pour l'introduction de la photo et d'autres nouveaux produits. Et par conséquent, le débat, extrêmement sensible d'ailleurs à l'intérieur de l'agence, où dès l'instant où il s'agit de modifier le statut, disons c'est son socle, hein, qui sont les articles 1, 2 et 3, c'est une crise profonde à l'agence. Ce que l'agence recherche depuis 57, c'est un moyen d'indépendance financière.
Ah, il faut saluer aussi la présidence d'un grand personnage qui a laissé beaucoup de souvenirs dans la maison, c'est Jean Marin. Hein.
Oui, c'est un peu le père fondateur. Ouais. Il a fait partie de toute cette équipe qui est arrivée à la Libération et qui a recréé l'agence actuelle. Cette équipe de Libération est restée jusque dans les années 70. Alors, il avait en plus l'avantage d'avoir été à Londres, à la BBC, et d'avoir été l'une des voix de l'émission Les Français parlent aux Français. C'était donc quelqu'un qui était respecté par De Gaulle, bien qu'il n'ait jamais été de la France libre. Il était de la France combattante, mais évidemment, il soutenait l'action du général De Gaulle. C'était en même temps l'ami de François Mitterrand. C'était l'ami de Pierre Mendès France. Et il faisait partie du petit parti qui aujourd'hui est disparu du DSR, c'est-à-dire les socialistes républicains. Donc c'était un homme un peu providentiel et unique. À un moment où tout devait se mettre en place, il avait des sympathies un peu partout. Ce qui était très utile, et l'agence a profité, notamment quand il lui a fallu qu'elle défende son indépendance éditoriale, par exemple pendant la guerre d'Algérie. Il s'est permis des choses que certainement aucun autre PDG n'aurait pu se permettre pour défendre l'indépendance de l'information.
Et revenons à l'AFP de 2014 pour conclure cette édition d'une semaine d'actualité avec vous, Hervé Roy ou Sophia Boudarbala. C'est maintenant, dès qu'un événement se produit, vous le déclinez aussi bien par écrit que par photo, évidemment, que par vidéo, etc. etc.
Oui, mais l'AFP est devenue une agence complètement multimédia. Donc effectivement, avec du texte, de la photo, de la vidéo, partout dans le monde, de l'infographie et aussi de la vidéographie, qui est un nouveau format qu'on utilise de plus en plus pour justement décrypter des événements, les expliquer de façon très accessible pour le grand public.
Mais toujours avec la même philosophie de travail, les faits, rien que les faits.
La rigueur, les faits et leur explication. Et il est bien clair aujourd'hui que le fait ne suffit pas, on ne peut pas s'arrêter aux faits, à l'information brute, tel que on peut, enfin c'est un petit peu la mythologie de l'agence, comme vous disiez, les faits, rien que les faits, mais c'est aujourd'hui les faits, leur description, les images qui vont avec les faits,
en perspective.
Et ensuite l'explication et la mise en perspective.
C'est aussi votre avis, j'imagine, Sophia ?
Oui, absolument. Et puis sur l'Afrique, c'est particulièrement, enfin comme partout d'ailleurs, mais c'est évidemment nécessaire, hein. Par exemple, je pense au Nigeria, qui est aussi un des gros sujets de cette semaine pour nous. L'avancée de Boko Haram, qui est un groupe islamiste armé extrêmement violent, qui détient toujours plus de 200 jeunes filles d'ailleurs, hein, depuis le mois d'avril dernier, et ne cesse de progresser dans les régions du Nord-Est, et quasiment en passe de contrôler des pans entiers de territoire, quasiment un État, dans cet État fédéral qu'est le Nigeria. Et c'est extrêmement important pour nous de contextualiser chacune des informations qu'on donne, parce que c'est très très compliqué. On a des sources officielles qui donnent une information partielle, compliquée à vérifier, avec très peu d'explications. On a de l'autre côté des habitants qu'on n'arrive pas à joindre une fois sur deux, et donc il faut vraiment faire très très attention, et le fait brut, telle ville est encerclée, ça suffit pas. Il faut vraiment qu'on soit tout de suite beaucoup plus large, plus précis.
Alors je commençais l'émission en soulignant le fait que les journalistes de l'AFP travaillaient dans l'anonymat le plus total, j'imagine que ça ne vous a jamais dérangé, loin du tapage médiatique, disais-je au début.
L'anonymat ne nous dérange pas, non.
C'est confortable. On est moins exposés que vous. En Afrique, c'est très frappant. Hein. Moi, je sais qu'à Kinshasa, plusieurs fois, ça m'est arrivé de donner exactement la même information que vous, mais de ne pas avoir le coup de fil du ministre que vous avez eu.
Merci Sophia Boundarmala, adjointe à la rédaction en chef Europe Afrique. Merci à vous Hervé Rouache, adjoint au rédacteur en chef central de l'agence. Merci à vous Xavier Baron, auteur donc du Monde en direct, de Charles-Louis Abbas à l'AFP, deux siècles d'histoire, un livre publié aux éditions La Découverte. Merci de nous avoir accueillis, votre accueil a été très chaleureux en plus, c'était très sympathique. Une semaine d'actualité, prise de son Marc Fichet, réalisation Vanessa Rovansky. Je vous rappelle que vous pouvez podcaster l'émission sur le site de la radio, www.rfi.fr. Un grand merci aussi à Sandra Chevalier et à Maud Forlini. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée. Second numéro consacré à Charles Péguy, avec notamment le grand comédien Michael Lonsdale, qui est un grand lecteur de l'écrivain mort au combat le 5 septembre 1914, demain dimanche, 17h10 heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.